Né ce culte et ce baptême, j'aimerais donner une allocution tirée de la divine parole, parce que mes pensées ne sont pas très intéressantes. Par contre, les pensées de Dieu sont passionnantes et extraordinaires, et on a besoin de plus en plus de les entendre. Un baptême, c'est un moment important pour celui qui est baptisé, pour le croyant. Et c'est aussi un témoignage formidable que nous avons un Dieu vivant. S'il n'y avait pas de baptême, il n'y aurait pas d'expression publique de la foi, ou très peu. Et le baptême, ça permet vraiment de dire, voilà, il y a des nouveaux chrétiens, il y a des chrétiens qui s'engagent, et c'est vivant, Dieu est vivant. Quand il raconte ce qui leur est arrivé, on voit qu'ils ne sont pas adhérés à une église, ils n'ont pas adhéré à une religion, à une philosophie. On voit qu'ils ont rencontré vraiment le Seigneur, mais par la foi, sans le voir avec leurs yeux, ni l'entendre avec leurs oreilles, mais ils l'ont rencontré personnellement. Il faut dire que la foi chrétienne est plutôt méprisée dans notre pays, notre beau pays de la France. J'étais le premier à la mépriser puisque j'ai été athée, anticlérical pendant plusieurs années quand j'étais étudiant. Et je me moquais des chrétiens. Pour moi, les chrétiens, c'était des gens naïfs, des pauvres naïfs. Je les regardais avec une condescendance et que je retrouve aujourd'hui quand on me regarde. Les gens me regardent avec un certain mépris. Ah oui, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien. Bon. Aujourd'hui, ça paraît dépassé. Nous sommes au 21e siècle, n'est-il pas? Comment peut-on encore parler d'un Jésus qui vivait il y a plus de 2000 ans? Eh bien, on en parle encore, figurez-vous. Et il est toujours vivant, il fait encore des choses dans les vies. Mais du temps de Jésus, déjà, on le méprisait. On lui disait, mais est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Alors, le fils du charpentier, ça voulait dire, c'est n'importe qui, c'est pas quelqu'un d'important. Et pour qui se prend-il? Il dit, je suis le Messie, je suis le fils de Dieu, mais c'est le fils du charpentier, enfin. Et aujourd'hui, on essaie de ramener Jésus à un fils de charpentier, mais par sa vie, par ses paroles, par sa mort, par sa naissance, par ses miracles, il a prouvé qu'il n'est pas juste fils de charpentier. Il est le Créateur, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Alors, comme dans certains livres ou certains films, j'aimerais faire un flashback, un retour en arrière. Je ne sais pas si vous aimez les films où il y a des flashbacks. Parfois, on n'y comprend plus rien au bout d'un moment. Mais là, je vais essayer d'être clair. Comment en arrive-t-on à être baptisé? On va faire un retour en arrière. Je ne vais pas parler de Pierre et de Denise en particulier, mais de cas général. Et on commence en général par l'ignorance, le temps de l'ignorance. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, il y a ces versets de Dieu qui sont implacables et qui disent sur l'humanité, Romains 3, 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est le regard de Dieu sur nous. Entre nous, on peut dire, oui, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui font du bien, mais devant le Dieu trois fois saint, il n'y a personne vraiment qui le cherche, personne vraiment qui fasse le bien. La justice absolue. Il n'y a pas de juste, dit la Bible. Et nous sommes souvent ignorants de Dieu. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas comment vivre non plus. La vie est pour beaucoup comme un code, un code indéchiffrable. Tant qu'on n'a pas la clé, ça reste un code indéchiffrable. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez enfant, vous jouiez au rébus, au code secret. On remplace le A par le Z et le B par le Y. Et on écrit des textes comme ça. Et après, les autres, il faut qu'ils devinent. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais je ne comprends rien. Mais si, il y a le code. Et quand on vous donne la clé, ah ben, tout c'est clair. Le rébus, c'est clair. Eh bien, je crois que la vie, et la Bible le dit, est comme un rébus. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la clé, vous ne comprenez rien à la vie. Vous ne savez pas comment la vivre. Il faut un mode d'emploi à la vie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un code qui a été particulièrement recherché par les Anglais. C'est le fameux code Enigma. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était les nazis qui avaient monté ce code pour leur communication secrète militaire. Et les Anglais avaient monté une équipe de mathématiciens, de chercheurs, des gens, des super têtes, et qui créaient des moyens de déchiffrer tous les codes possibles et imaginables. Et un jour, ils ont pu voler la clé d'Enigma, parce qu'Enigma, elle avait résisté à toutes les attaques, toutes les réflexions, mais ils ont volé le code, et là, ils ont pu battre les nazis, surtout dans la mer, hein, dans les sous-marins, etc., parce qu'ils connaissaient toutes les communications. Eh bien, Dieu nous a donné le mode d'emploi, le code de la vie. Ce mode d'emploi, il l'a révélé dans la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible est un livre extraordinaire et important. C'est pour ça que Dieu a pris la peine de l'inspirer à des prophètes pendant des siècles. C'est pour ça que c'est le livre le plus lu, le plus imprimé, le plus répandu, le plus diffusé, le plus traduit de tous les livres. D'ailleurs, la Bible, ça veut dire le livre. Pourquoi encore aujourd'hui c'est le livre le plus traduit ? Parce que tous les peuples, toutes les langues ont besoin d'entendre, justement, de connaître le mode d'emploi de la vie. Quand on n'a pas le mode d'emploi, ça donne quel résultat ? Rien d'extraordinaire, rien d'inattendu. Les couples se déchirent et divorcent. La violence augmente dans les comportements, puisqu'on ne sait plus comment réagir. L'égoïsme extrême, hein, pleine montée. Jésus avait prophétisé quand il était sur la terre, il avait dit « L'amour du plus grand nombre se refroidira avant mon retour. » Eh bien, on a l'amour qui se refroidit, l'égoïsme qui monte de plus en plus, c'est chacun pour moi, n'est-ce pas ? Chacun pour moi. Il faut s'aimer soi-même. Et puis, il y a la perversion du bien. Ce qui était bien, établi par Dieu, est perverti parce que on n'a plus de repères, on n'a pas la clé. Il manque la clé. C'est extraordinaire quand même de mener toute une vie sans avoir la clé pour la déchiffrer. Imaginez que vous utilisiez, je ne sais pas, votre voiture ou votre ordinateur ou un objet électronique moderne sans le mode d'emploi. Rapidement, vous allez avoir des problèmes. Moi, un jour, j'avais gagné une petite horloge radio faite en Chine, sans publicité. Je n'ai même pas réussi à mettre l'heure dessus. Il y avait des boutons, j'appuyais, j'ai rien compris. Finalement, j'ai dû chercher le mode d'emploi que j'avais jeté, égaré, et c'est en retrouvant le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait une combinaison de touches qu'il fallait faire, incroyable. Il fallait être mathématicien pour mettre l'heure juste sur cette petite horloge. Mais il y a beaucoup d'entre nous, et j'étais dans ce cas, qui vivaient leur vie au petit bonheur, la chance, en disant, ben, est-ce qu'il faut que je me marie ? Est-ce qu'il faut que je travaille ? Est-ce qu'il faut que je vais voler ou je vais tuer ? Ou je vais être honnête ou pas ? Pourquoi ? Et je pense particulièrement aux jeunes, ils n'ont vraiment pas de repère du tout. Puisqu'on a mis dehors la religion chrétienne de la France, on dit c'est fini, terminé la Bible, terminé Jésus-Christ, terminé la foi, les églises se vident et on les méprise, on les critique, on les attaque. Et les jeunes, ils n'ont plus rien et ils sont là dans le vide, mais complètement dans le vide. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ça, c'est le temps de l'ignorance. Vous savez qu'on peut même être ignorant en ayant une éducation religieuse. On peut ignorer Dieu alors qu'on a eu une éducation religieuse. C'était mon cas, encore une fois. J'ai eu une bonne éducation religieuse, mais je ne connaissais pas Dieu personnellement. C'est ce qui est arrivé à un personnage de la Bible, il s'appelait Nicodème. C'était un chef de synagogue, un homme qui enseignait les Juifs à Jérusalem. Donc, ce n'était pas n'importe qui, c'était un grand ponte, un grand rabbin, si vous voulez. Et un jour, la nuit, il vient voir Jésus, il vient la nuit parce qu'il a peur qu'on le voie. Et il frappe à la porte, Jésus le fait rentrer et il dit, Jésus, tu es un maître quand même extraordinaire. Et Jésus lui dit d'un seul coup, comme ça, sans présentation, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et là, Nicodème reste interdit, il dit, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau ? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère et renaître ? J'ai dit non, il faut naître d'en haut et d'esprit. Et parce qu'il s'avère que dans la langue grecque, naître de nouveau ou d'en haut, c'est la même chose. Il faut que ce soit Dieu qui te fasse renaître par l'esprit. Aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de notre corps. Je vois beaucoup de gens le samedi ou le dimanche matin qui font leur jogging. Et c'est important de veiller sur sa santé. si on veut être en forme, mais si peu qui vont à l'église, si peu qui s'occupent de leur âme, si peu, si peu. Vraiment, l'âme est totalement négligée, en friche. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, on ne sait pas quoi lui donner. Il y a des gens qui disent « Bon, ben, je vais m'inscrire au cours de yoga. Peut-être j'aurai un peu plus de spiritualité. » Mais bon, surtout, vous faites beaucoup de souplesse, d'exercice, de méditation, mais vos pensées restent les mêmes. Alors, je ne sais pas, je vais m'intéresser à la kabbale. Hein, c'est la mode de s'intéresser à la kabbale. L'ésotérisme, l'occultisme, des choses très compliquées que seule une élite peut comprendre. Et puis alors vous vous gargarisez de choses incroyables, de mystères, et puis au bout du compte, vous êtes toujours la même personne. Et les gens tâtonnent, cherchent à droite, à gauche. Il y en a qui vont vivre dans une yourte, dans le Larzac, en se disant, si je vis dans une yourte, je vais découvrir le vrai bonheur, la vraie pureté. Bon, quand même, ils n'oublient pas leur BlackBerry et leur ADSL, hein, mais ils vont dans une yourte. Et moi, je les comprends, je dis, mais c'est vrai, on en a assez de cette pollution, de cette industrialisation, on aimerait un peu de respirer. Oui, mais ce n'est pas ça qui va vous changer le cœur. Non, 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 non. Il y a les mêmes conflits, les mêmes problèmes dans les yourtes que dans les immeubles, dans les appartements. Alors, quelle est la clé ? La clé, elle n'est pas dans la religiosité, elle n'est pas dans une philosophie. La clé, elle se trouve dans l'Écriture et c'est Christ qui la donne. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et c'est Christ lui-même la clé. C'est Jésus-Christ en qui tout s'éclaire. Tout prend sens par rapport à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ ? Parce qu'il est le Messie promis depuis des siècles. L'Ancien Testament, comme on l'appelle nous chrétiens, mais que les juifs appellent le Tanakh, hein, le livre des prophètes et des rois, et de la Torah, l'Ancien Testament annonçait un sauveur. Depuis le début de l'humanité, ça cloche, hein, c'est pas nouveau qu'il y ait des problèmes dans l'humanité. Et depuis le début, Dieu avait dit « je vous enverrai un sauveur ». Et il y a des prophéties dans l'Ancien Testament très précises sur qui serait, qu'il naîtrait à Bethléem, qu'il serait trahi, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis, qui a appliqué tout ça ? Qui a accompli toutes ces prophéties ? C'est Jésus. Et il ne l'a pas fait par inadvertance. Hein. Il est l'envoyé de Dieu. Dieu fait chair. Beaucoup de gens sont devenus agnostiques. Hein. Même parmi les catholiques et les protestants, il y a beaucoup qui sont devenus complètement agnostiques. C'est-à-dire, oui, il y a peut-être un Dieu, mais il est tellement absent, je le vois tellement peu dans ma vie, et même je le vois tellement peu dans l'Église, que je me résous à être agnostique, c'est-à-dire on ne peut pas savoir. Hein, je crois que la France est remplie d'agnostiques, et il y a aussi des athées vraiment militants, mais il y a aussi beaucoup d'agnostiques, par défaut. Alors que Dieu s'est révélé clairement, on peut le connaître, et il a montré qu'il nous aimait. Personnellement, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, c'était une preuve d'amour, parce qu'il est descendu lui-même vers nous. C'est lui qui a fait le pas vers nous. On ne peut pas dire « Dieu ne m'aime pas », parce que Dieu a prouvé qu'il m'aimait en envoyant son Fils unique. Et ce Fils unique est mort pour moi, pour nous, sur cette croix infâme. Si ce n'est pas une preuve d'amour, qu'est-ce qu'il nous faut ? Après le temps d'ignorance, lorsqu'on entend l'Évangile, quand on commence à lire la Bible, le mode d'emploi de la vie, on arrive à un temps de repentance. On n'en parle pas beaucoup de la repentance, hein, parce que ce n'est pas très agréable. On aimerait que Dieu nous donne de l'argent, de l'amour, de la joie, et puis voilà. Sauf que dans la Bible, il y a l'amour, la joie. Il y a des questions d'argent, mais ce n'est pas forcément pour être riche. Mais dans la Bible, il y a aussi la repentance. Pour connaître Dieu, il faut se repentir. Qu'est-ce que dit la Bible ? Actes 17, 30, je lis ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance, parce qu'il est miséricordieux. Mais maintenant, il nous annonce à tous, hein, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est-à-dire à se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Comment j'ai quitté l'athéisme pour devenir chrétien et puis plus tard pasteur ? c'est qu'à un moment, j'ai compris, en lisant la Bible, en regardant la Bible, que j'étais pécheur devant Dieu. J'ai compris que ma conscience, quand elle me disait « Oh là, c'est mauvais ce que tu fais là !» qu'elle n'était pas folle, elle n'était pas déboussolée ni déréglée, mais qu'elle me disait la vérité, ma conscience. Et là, je me suis dit « Mais alors, je suis mal. Vraiment, je suis mal. Et non seulement je suis mal, mais je suis mauvais. » Je suis vraiment profondément mauvais. J'ai découvert qu'au fond de moi, parce que souvent on dit « Oh, au fond, il n'est pas si mauvais. Hein, » vous connaissez l'expression. Ben, je peux vous dire qu'au fond, on est très mauvais. On est plus mauvais qu'à la surface. Parce qu'à la surface, on met de la politesse, de l'éducation, on fait attention. Mais au fond, on est tel quel. C'est comme vraiment dans la vase, hein, plus vous allez profond, plus c'est boueux. Ça, c'est le cœur humain, c'est la Bible qui le dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et quand on réalise ça, on dit « j'ai besoin de Dieu dans ma vie pour qu'il m'aide et qu'il me transforme, qu'il change mon cœur qui est poussé vers le mal. » Il y a deux possibilités. Soit on rejette Dieu et la révélation de la Bible en disant « non, tout ça c'est des foutaises, j'y crois pas. » Soit on se repent et on croit au Seigneur. Et on peut dire que dans le monde, il y a deux catégories de personnes, ceux qui ont se sont repentis et ont cru, et ceux qui ont rejeté le Seigneur. Et puis, il y a la catégorie des ignorants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore fait face à eux-mêmes et à la Bible. Dans quelle situation vous trouvez-vous pour l'instant? Est-ce que vous êtes dans l'ignorance? Est-ce que vous êtes dans le rejet conscient? Ou est-ce que vous êtes dans la repentance? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez une certaine faillite spirituel et moral? Ce n'est pas facile à reconnaître parce que notre ego dit « mais tu es quelqu'un de bien, regarde par rapport aux autres ». Mais ce n'est pas par rapport aux autres qu'il faut se regarder, c'est par rapport à Jésus-Christ et à Dieu, qui était parfait. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Les Français d'aujourd'hui, de 2011, aspirent au changement. Bientôt, c'est l'élection présidentielle. Et on dit « on veut changer de président ». On veut changer de politique. On veut changer de banque, pour certains, n'est-ce pas? Il y en a même qui disent « je veux changer de conjoint, j'en ai assez ». Il y en a même qui disent « je vais changer de pays si ça continue comme ça ». Mais vous pouvez aller sur une île déserte, aller au bout du monde, aller où vous voulez, vous serez toujours la même personne. C'est vous qui devez changer, ce n'est pas la société autour de vous, c'est moi. Et c'est ça le message de Jésus-Christ, de la Bible. La Bible s'adresse au cœur humain, elle ne s'adresse pas à la philosophie, à l'histoire, elle s'adresse au cœur humain. Toi, homme, femme, enfant, Dieu t'appelle à te repentir et à croire au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'état d'esprit de quelqu'un profondément, qui peut réaliser ce miracle de pardonner nos péchés, d'effacer nos péchés, de changer le mal en nous en pureté, de faire de nous un saint. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle, franchement, parce qu'on est loin d'être des saints. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'un jour, on nous a mis de l'eau sur la tête. Dans la Bible, il est dit clairement comment on devient enfant de Dieu. Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont reçu la lumière de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'on doit naître dans la famille de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Et qui est-ce qui nous fait naître? C'est Dieu. Ce n'est pas l'Église qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est Dieu qui nous fait renaître spirituellement. Ça veut dire qu'on est une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Pierre est une nouvelle personne. Denise est une nouvelle personne. Bien sûr, vous nous reconnaissez, ceux qui nous ont connus avant notre conversion. Mais en même temps, ils disent « Mais t'as bien changé quand même, t'as bien changé. » Et j'espère en mieux, n'est-ce pas? Parce que si c'est pas en mieux, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas bien suivi le mode d'emploi. Mais quand on rencontre le Seigneur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il nous donne son amour, sa paix, sa miséricorde. Nos relations avec les autres sont transformées, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, avec les autres Parisiens, n'est-ce pas? Que nous aimons beaucoup. Le Seigneur change tout parce qu'il nous change, nous. Et ce matin, j'aimerais terminer avec cela. Le flashback d'un baptisé, c'est qu'il était d'abord dans l'ignorance, il est venu à la repentance et à la foi. Et il a compris que Dieu l'aimait et qu'il pouvait le sauver pour l'éternité. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un ce matin qui a reçu une partie de ce message. Quelque chose vous a interpellé. Ne le mettez pas au fond de votre sac, mais prenez le temps, juste après ce culte, de prier. Peut-être de parler à quelqu'un, de poser une question. Hein, on est trois pasteurs ici. Il y a le pasteur Delpouèche, le pasteur Somerville et moi-même. On est vraiment disponible pour parler avec vous, prier avec vous. Vous pouvez le faire chez vous, tout seul, prendre la Bible et dire « Seigneur, parle-moi, je veux te connaître ». Sachez que Dieu ne vous décevra jamais, jamais. Est-ce qu'il y a ici un chrétien né de nouveau qui a été déçu par Dieu ou par Jésus-Christ? Soyez francs, hein. C'est difficile, hein. Difficile d'être déçu par celui qui est notre Créateur, notre Dieu. Il est merveilleux. On va s'incliner dans la prière.